bienvenue dans Cogitpop, ce petit labo d'éducation populaire en train de se faire. Première émission d'une série, si tout se passe bien, qui propose un outil politique pour muscler notre autodéfense intellectuelle, l'arpentage. Nous avons 26 minutes, autant dire très très peu de temps. Un arpentage en soi dure habituellement 3 heures, pour s'emparer d'une citation et voir ce qu'elle nous fait à plusieurs. Pour cette première, nous ne sommes que deux dans ce studio, mais c'est déjà plusieurs. Sébastien, salut Sébastien.
Bonjour.
Tu es praticien d'éduc-pop, novice, c'est ce que tu m'avais dit. On peut te définir comme ça ?
On peut me définir comme ça parce que de toute façon, dans l'éducation populaire et politique, on pourra revenir sur le « et politique », il n'y a pas de novice et il n'y a pas d'expert. Mais voilà, quitte à se définir, vaut mieux dire novice, ça c'est sûr.
D'accord. Donc Sébastien et moi pour cette première qui est pour le coup peu familière de l'éducation populaire. Je vais m'essayer à l'arpentage pour la première fois aujourd'hui. Alors pour pas vous lasser et puis aussi parce que l'intérêt de l'arpentage est de se faire en joyeuse bande et qu'on ne pense qu'avec les autres, on va accueillir dans ce studio d'autres personnes du monde de l'éducation populaire qui viendront jouer avec nous autour d'une citation. Et non d'un livre, comme ça se fait habituellement, tu y reviendras. Donc jouer avec nous, penser, transformer sa manière de voir les choses ou d'agir. Des personnes qui se prêtent au jeu, mais qui ont plus l'habitude d'animer des sessions d'arpentage, et donc qui distilleront leur propre manière de faire ou de concevoir ou de pratiquer l'arpentage, qui est peut-être bien différente de celle que tu proposes. Alors Seb, d'abord... On dit Cogitpop, petit labo d'éducation populaire. C'est quoi, d'après toi, c'est quoi ta définition d'éducation populaire ?
Alors, la manière la plus simple de définir l'éducation populaire, c'est de préciser ce populaire. Et en fait, c'est par et pour le peuple. Pour le peuple, d'abord, souvent, c'est ce qui vient. On se dit, bon, bah, si c'est populaire, c'est que ça doit s'adresser à tout le monde, ça doit intéresser le peuple. Donc, le destinataire, c'est le peuple, c'est pour le peuple. Mais ce qui est très important, c'est aussi que ce soit par le peuple. Et c'est peut-être là que l'éducation populaire est nécessairement politique. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que le peuple pourrait recevoir comme s'il était un enfant, à qui il faut expliquer des choses, et qui est un peu bête, donc on prend un peu le temps d'être gentil avec lui. Non, pas du tout. C'est vraiment l'idéal de l'auto-émancipation. Donc, construire un nous, construire un collectif, faire peuple, c'est d'abord apprendre à penser ensemble. Donc, le par le peuple est peut-être même plus important que pour le peuple, parce que si c'est fait par le peuple, il y a de grandes chances que ce soit dans ses intérêts à lui.
Et alors toi, tu y accoles toujours forcément quelque chose de politique. Enfin, pour toi, l'éducation populaire est nécessairement politique.
Oui, voilà, mais voilà, t'as raison de dire qu'elle est nécessairement politique, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas l'éducation populaire, je ne sais pas quoi, et une sous-branche qui serait l'éducation populaire politique. Il me semble que voilà, l'éducation populaire, elle est nécessairement, comme tu l'as dit tout à l'heure, transformatrice. Elle a toujours une dimension pratique. C'est-à-dire que si on pense ensemble, c'est pas juste pour rester au niveau des idées et de la théorie, mais vraiment pour pouvoir changer nos existences.
Alors, au sein de cette éducation populaire, toi, tu utilises, parce que tu proposes des sessions d'arpentage. Alors, l'arpentage, qu'est-ce que c'est ? Pour toi ?
L'arpentage, c'est ce qu'on va essayer de faire dans la série d'émissions cette année. Alors, à une toute petite échelle, puisqu'on va prendre une phrase, mais à la base, l'idée, c'est de lire collectivement un livre. Parce qu'un livre, ça peut faire peur, peut-être souvent d'ailleurs, parce que l'école nous a un peu terrorisés dans notre rapport au livre. Et donc, c'est bien d'être ensemble pour se soutenir dans cette épreuve. Et puis, c'est pas se soutenir dans cette épreuve parce qu'on voudrait juste se réconcilier avec les livres, mais parce qu'on croit, en fait, que les livres, ça peut être des outils puissants pour penser ensemble et s'armer des fois contre l'oppression, contre les dominations. Et puis les livres, comme c'est long, et le fait d'être plusieurs en même temps fait que finalement, 2 ou 3 heures, ça peut paraître long, mais pour réussir à lire un livre de 200 pages, c'est finalement court, parce que là, l'union fait la force.
Et concrètement, à quoi ça ressemble une séance d'arpentage habituellement, donc de 2-3 heures?
Eh ben, on va le donner un peu à voir avec notre manière de lire la citation. Mais l'idée, bah, c'est de prendre le livre, déjà de s'emparer de l'objet, un peu le désacraliser aussi, parce que voilà, le livre, ça peut symboliser le savoir, le prestige, quelque chose de sacré au sens, il faut pas y toucher, il faut presque le vénérer. Mmh. Et là, en faire presque un objet à la fois banal et aussi un objet ami. C'est-à-dire, ah tiens, ce livre, il a telle couleur, il a tel poids, donc on s'autorise vraiment, là on ne va pas pouvoir le faire parce que ce ne sera pas un livre, à appréhender l'objet, mmh. et ensuite on se le partage, on pourra revenir aussi sur le geste du partage, puisque concrètement un livre, pour pouvoir le lire en même temps à plusieurs, il faut le déchirer.
Pour wow. que...
Ouais,
yes.
Alors souvent il y a des gens qui disent, ah non mais bah, justement le côté sacré, ah. Ah, mais on ne peut pas prétendre faire de l'émancipation et déchirer les livres, mais si.
Oui, parce mais que c'est pour en faire quoi.
Voilà, ce qui compte c'est de le lire, donc se l'approprier. En plus ça fait vivre l'économie du livre, et pour que les livres existent, il faut que les éditeurs vendent des livres, que les libraires vendent des livres, et donc après un arpentage, souvent on se retrouve à acheter le livre, et donc l'éditeur il est très content, le libraire il est très content, et donc ça fait vivre les livres, de les lire et les déchirer, pas du tout, plutôt que de les acheter et les mettre dans un placard. Donc, mais voilà, déjà ce geste-là fait débat, fait penser, et après chacune va lire dans son coin ou en groupe. Il y a plusieurs manières, et prendre le temps de s'approprier sa lecture pour ensuite venir la partager selon certaines modalités qu'on va justement mettre en pratique, nous, à propos, avec des citations pendant cette saison.
Alors, Go, quelle citation, avec quelle citation tu es venu ?
Alors, je suis venu avec une citation, et comme tu l'as dit, on sera plusieurs. Normalement, on sera plutôt trois les prochaines fois. Et l'idée qu'on s'est donnée de fonctionnement, c'est que la personne qui vient avec une citation vient sans que les autres connaissent la citation. Bah, peut-être qu'ils ou elles la connaissent déjà, mais ne savent pas à l'avance, pour qu'on soit vraiment dans cet état d'esprit de l'arpentage qui est... Bah, une découverte. L'idée, c'est de pas venir en devant savoir des choses ou pour montrer qu'on sait des choses, mais vraiment pour penser ensemble. Et donc là, je suis donc venu avec une citation de Audre Lorde. Alors, comme c'est en anglais, c'est pas forcément facile d'entendre, de visualiser son nom. Donc, Audre, c'est comme Audrey, mais sans le Y, A-U-D-R-E. Et son nom de famille, c'est Lorde, avec un E, L-O-R-D-E. Donc, c'est d'abord une poétesse et une conférencière. Une afro-féministe, donc une personne qui était afro-américaine, qui était féministe, qui était aussi lesbienne, ça peut compter dans la compréhension de certaines de ses œuvres et de ses analyses critiques. Et là, c'est une citation qui est fort connue dans les milieux féministes et militants, où elle dit la chose suivante, c'est un conseil, on pourrait dire tactique, dans les luttes. « Nous ne détruirons pas la maison du maître avec les outils du maître. » Je vais la redire une deuxième fois. « Nous ne détruirons pas la maison du maître avec les outils du maître. »
Ok, il y a un petit temps de digestion, puis on va mâchouiller cette citation tout au long.
Et donc ben là, si on avait nos pages à lire, donc notre citation qu'on vient d'entendre, la première chose qu'on peut partager, c'est quelque chose souvent que l'école ne prend pas le temps de faire, voire même que l'école dénigre, c'est... nos émotions, nos affects, c'est-à-dire juste, il y a une idée, il y a une formule, il y a des phrases, ici il n'y en a qu'une, et juste prendre le temps d'entendre, de dire, ok, qu'est-ce que ça me fait d'entendre ça, qu'est-ce que je ressens, avant même d'intellectualiser dans un deuxième temps, on y viendra après, on ira du côté des idées. Mais d'abord le côté des affects, donc je te pose la question, quand t'entends cette phrase...
Tu me la redis ?
Nous ne détruirons pas la maison du maître... avec les outils du maître.
Alors, d'abord, moi, j'entends quelque chose de... Enfin, ça me fait quelque chose de très radical. Ouais, très radical en moi. J'entends détruire. Et ça... ça bouge. Ça bouge en moi. Je sens comme une urgence. Je ressens ça. Et puis, je ressens quelque chose de très jouissif aussi dans cette phrase, peut-être du fait de sa radicalité, qui ouvre... j'ai l'impression qu'on y va à la massue, quoi. Et il y a quelque chose de libérateur. Peut-être. Là, je dis ça, ouais, comme ça, là tout de suite. Ce que ça me procure comme émotion d'entendre cette citation. Mmh. Et toi ?
Eh ben, je vais repartir de la fin parce qu'elle est commune avec toi. Effectivement, il y a une forme d'excitation et quelque chose d'assez jubilatoire parce que d'une certaine manière, c'est comme si l'objectif était acté, on va détruire la maison du maître, et que l'enjeu c'était comment on va s'y prendre. Mmh. Et c'est rassurant, c'est-à-dire que pour moi c'est comme si ça levait une forme de fatigue.
Ouais.
De oh là là, le début des concessions, de oui, mais non, faudrait pas les choquer, les adultes, les hommes, ou les riches, faut les ménager, les pauvres. Là, d'emblée, on est direct dans le lourd. Et donc, c'est à la fois jubilatoire et en même temps, c'est presque reposant. Il y a un côté ouf, on est tout de suite dans les choses sérieuses et on perd pas notre temps dans le blabla ou les concessions.
Ouais, ouais, c'est ça. Ça me parle vraiment, ce que tu dis. Mm. Et c'est même, ouais, tu dis quelque chose de rassurant, mais moi aussi, je me dis, waouh, toutes celles et ceux qui ont entendu cette citation, enfin, j'ai l'impression qu'on se retrouve tous et toutes dans, enfin, on peut se retrouver dans cet état d'esprit, et du coup, oui, il y a quelque chose de joyeux et de rassurant d'être, ça procure pour moi quelque chose de rassurant, de sentir qu'on est nombreuses à sentir ça.
Eh bien, tu vois, c'est intéressant parce que, en t'entendant, ça fait partie aussi du pari de l'émission, d'essayer aussi de temps en temps, de prendre le temps de voir qu'est-ce qui se passe dans l'arpentage ou qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et là, si j'étais en train d'animer un arpentage, je me permettrais juste de dire, attention, n'oublie pas que tu dois parler de tes émotions. Mmh, mmh. Parce que tu vois, très vite, t'as dit, c'est rassurant de savoir qu'on est peut-être nombreux à ressentir ça. Parce que si quelqu'un après toi, dans l'arpentage, mmh, n'avait pas les mêmes émotions, c'est toujours important, tu vois, pour un animateur ou une animatrice d'Éduc Pop, de faire en sorte que les gens se sentent autorisés à dire, et c'est, ouais, c'est fou de voir comment on est vite tenté, c'est pas du tout un reproche que je te fais, hein, tu vois, de monter en généralité et de pas dire, voilà, ouais, surtout pour cette première partie des émotions. Alors là, je pense que ça a été aussi facilité par le fait que j'avais des émotions proche des tiennes, mais voilà, je me permets cette petite remarque.
Mm-mm. Et alors vous, auditrices et auditeurs, qu'est-ce que ça vous fait, cette citation ? Et toi, Clara, qui est à la réalisation, qu'est-ce que ça te fait ? Si tu veux, tu nous en parles après, on continue hors émission. Donc ça, c'est la première étape d'un arpentage. Voilà. On partage ce que ça nous fait, quelle sensation ça nous fait.
Et puis, comme on a pu l'entendre un peu, ça commence déjà à penser. C'est-à-dire que c'est intéressant aussi de voir que les émotions, c'est pas de la non-pensée ou de l'anti-pensée, d'opposer émotion et raison. Mmh. Ça, c'est quelque chose de. C'est une manière de penser du maître. C'est pour ça aussi qu'on a choisi cette citation. C'est que c'est aussi une citation qui concerne les tactiques en éducation populaire et politique. Et voilà, les émotions disent déjà beaucoup de choses. Mmh. Et donc, maintenant, à propos de cette citation, je prends le temps de la redire parce qu'elle est courte, c'est ça qui est bien aussi. On peut la redire plusieurs fois. Nous ne détruirons pas les outils du maître avec la maison du maître.
L'inverse. Nous ne détruirons pas la maison du maître avec les outils du maître.
C'est pas mal.
Et l'inverse peut-être aussi.
Oui, oui,
c'est ouais, moins facile à faire, mais...
Merci. Et qu'est-ce que, s'il y a une idée qui te vient en lisant, en écoutant cette citation, alors là, ce qui est très important en termes d'autorisation à penser, c'est qu'on, l'idée, c'est pas de faire une explication de cette citation ou des 10 pages que tu aurais eu à lire. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur de faire un contresens ou de devoir bien tout mémoriser pour pouvoir résumer ou expliquer ce que l'auteur ou l'autrice a voulu dire. Là, c'est vraiment penser ce que, enfin, être attentive à ce que ça t'a donné à penser. Mmh. Voilà. Mais une idée aussi, donc pour pouvoir se tenir à quelque chose et le partager. Là, avec la citation, c'est plus évident, mais quand on a eu 10 pages à lire, partager une idée, c'est pas évident de se tenir à une idée. Mmh. Et c'est voilà, quelque chose qui émerge en écoutant là, cette citation pour toi. Et je précise, donc du coup, tu peux pas te tromper, ça c'est très important.
Ouais.
Tu peux pas avoir faux. Mmh. On n'est pas dans un cadre, tu vois, où un maître un professeur pourrait dire c'est pas ça que ça veut dire, ou là vous vous êtes trompé. Tu peux pas te tromper quand tu dis moi quand j'entends ça, ça me donne à penser ceci.
Ce que ça me donne à penser, c'est que il faut inventer des formes nouvelles pour s'émanciper. Voilà, c'est juste. Et j'allais redire que c'est jubilatoire, mais je pense que c'est le fait que ce soit jubilatoire. Enfin, pour moi, les deux sont liés. Tu as raison. Pensée et émotion. En tout cas, pour moi, ce que ça me donne à penser, c'est un défi. Inventons de nouvelles manières de d'agir pour s'émanciper. Je sais pas.
Ben. Si tu sais, puisque tu viens de le dire. Me concernant, l'idée qui émerge en écoutant cette citation, c'est l'importance de la lenteur. C'est-à-dire, c'est la question de la tentation. C'est-à-dire, les outils du maître, c'est tentant de se les réapproprier ou d'imiter le maître, parce que, mine de rien, ces outils-là, et c'est peut-être pas pour rien qu'il est devenu maître, ils sont rodés, ils ont leur efficacité propre, surtout dans un outil taillé sur mesure pour le maître. Enfin, le maître, au passage, on peut mettre des catégories liées au rapport de domination. Ça peut être l'homme dans une société de domination masculine, les adultes dans une société pour les adultes, les blancs dans une société raciste, les riches dans une société de classe, etc. C'est ça que veut dire le maître chez l'ordre. Et résister à cette tentation, c'est dire on va falloir inventer les outils nous-mêmes, etc. Ouais. On va être beaucoup moins efficace, ça va être long, ça va être lent. Et de finalement de redonner de la positivité, de la joie, et de voir tout ce qu'on a à gagner, voire même peut-être que la victoire doit nécessairement en passer par là. Je pense que c'est ça pour moi qu'elle veut dire. Mais les tentations vont être nombreuses de prendre des raccourcis ou d'utiliser
ce qui est déjà là, en fait.
Ce qui est déjà là, voilà.
On a vu, un, ce que ça nous fait, donc les affects, deux, ce que ça nous donne à penser, et c'est quoi le troisième,
Comme le pari de l'éducation populaire politique, c'est vraiment la transformation sociale, le geste politique, c'est que tout ça, on est convaincu que ça va permettre de transformer les pratiques, de transformer les existences. Que ce soit personnel, familial, professionnel, enfin, l'existence. Et alors, il y a le petit moyen mnémotechnique, affect ou émotion, l'idée, l'existence, donc aïe, qu'effectivement ça pique, enfin, au sens, ça donne à penser un peu comme une petite bestiole ou un moustique qui viendrait aiguillon qui viendrait nous taquiner. Donc la question, voilà, c'est qu'est-ce que toi, en entendant ou en ayant lu ces pages ou en entendant cette citation, qu'est-ce que tu penses? Et là, c'est une hypothèse et tu as le droit de tout dire. Ça peut être rien, la réponse. Qu'est-ce que tu penses que ça peut changer qu'est-ce que ça vient chatouiller pratiquement
au quotidien
dans tes pratiques.
Donc, on redit la citation, c'est « Les outils du maître ne détruiront pas la maison du maître ». Alors moi, en tant que... J'ai l'impression que ça va, que ça infuse vraiment en moi et à différents niveaux. Un niveau, par exemple, en tant qu'animatrice radio. Pour moi, ça veut dire que le doute qui est si important pour moi à faire entendre, il faut que j'invente, en fait, il ne faut pas, par exemple, dire à la radio que le doute, c'est essentiel, que c'est ce qui nous fait penser. Parce que ça serait asséner quelque chose, ça serait donc être dans une certitude, et j'ai l'impression que partout, tout le temps, dans tous les médias, ce qu'on entend, c'est des gens qui savent et qui assènent des choses, des vérités. Et pour moi, le doute est très important parce que ça fait même partie de, justement, penser. Et donc, dans ma pratique, ce serait ne pas asséner ce à quoi je crois, c'est-à-dire le doute est nécessaire, mais de le faire entendre. Par exemple là, de tâtonner, de me tromper et de dire, voilà, à la radio aussi, on tâtonne, derrière le micro, ou en tant que journaliste, ou en tant qu'animateur, je n'ai pas de parole toute faite, je n'ai pas de parole magique, je tâtonne, je doute. Et donc de faire entendre le doute, ce qui est difficile, ce qui est difficile. Mais voilà, donc ne pas utiliser cet outil du maître qui est « j'assène une vérité » pour, au contraire, laisser le doute. C'est, voilà, un des pans, mais si je réfléchis en tant que femme, il y a plein de choses qui me viennent, puisque je me rends compte à quel point on a, enfin, où j'ai parlé de moi, j'ai intégré toutes les normes, toutes les injonctions qui sont à destination des femmes. Mais voilà. Et toi, Sébastien ?
Moi, j'aime beaucoup cette citation, c'est pour ça que je l'ai partagée, et j'aime y repenser régulièrement parce que je trouve qu'elle elle protège salutairement de la fascination pour le maître, les maîtres, les dominants. Et quand je dis ça, je pense vraiment qu'il ne faut pas sous-estimer, pour moi, notre capacité, quand je dis fascination, c'est peut-être pas le bon terme, parce que c'est pas une forme d'idolâtrie, de « waouh, qu'est-ce qu'ils sont forts, qu'est-ce qu'ils sont beaux », mais il y a quand même une croyance forte en nous que le pouvoir, ça rend possible des choses. Et là où elle est la plus tentante, c'est quand on est persuadé que nous, parce qu'on serait un peu plus mal que les autres, on va le mettre au service du bien. Et c'est quand même toujours présent dans les luttes et d'émancipation, ou même dans les milieux dits de gauche, très alternatifs, d'espérer faire avancer le schmilblick dans l'intérêt général. Et là, la fascination pour des outils de pouvoir, elle est omniprésente. Je prends un exemple, les outils du maître, typiquement les GAFAM, des multinationales américaines capitalistes, on peut considérer que c'est un outil du maître. Et c'est tentant de se dire, si on fait une communication par les réseaux sociaux, ce sera plus efficace et ça permettra ça. Il y a toujours plein de choses où l'argumentation peut dire, la rationalité, ça permet d'expliquer à l'autre. Mais oui, rationalité, expliquer, on est déjà dans une posture de maîtrise où on va faire comprendre à l'autre, voire on va lui expliquer la vie. Et quand on commence quand je commence à vraiment garder cette citation près de moi, je me surprends des fois en flagrant délit d'utiliser les outils du maître, même si j'essaie de m'auto-persuader que c'est pour le bien ou que c'est dans l'intérêt. Et donc de ce point de vue-là, je la trouve très exigeante, cette citation, mais très utile pour ça.
Ouais, très exigeant. C'est vertigineux ce que ça demande aussi de déconstruire ou d'imaginer d'autres. Parce que c'est partout, effectivement. Tous les outils à disposition, tout le bain dans lequel on est imprégné, on baigne, une grande partie sont ce que Audre Lorde appelle les outils du maître.
Mais en même temps, c'est une super belle nouvelle, parce que ça, créer, inventer ensemble, c'est puissamment joyeux, même si ça peut être fortement déstabilisant, surtout au début.
Super, on va en rester là. C'était donc la première émission de Cogit Pop, une émission d'éducation populaire qui dépliait cet outil politique qui est l'arpentage. On a essayé de le faire tous les deux, Seb et moi. On se retrouve, vous nous retrouvez les deuxième et quatrième dimanches de chaque mois à 11h ou sur le site fréquence7.net. Et puis la prochaine fois, on sera plus nombreuses pour discuter d'une autre citation mystère, comme toujours. À bientôt, merci.
Merci à toi.